Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien Vous Fasse. Comme tous les vendredis, on prend un peu de recul sur la vie quotidienne et je vous propose ce matin de déguster quelques mots de la chair et de la bonne chair. Mots du plaisir charnel et culinaire qui titillent les sens et l'esprit. Nos invités égrèneront quelques-uns de leurs mots fétiches, de gigolette à faire Cattleya, de millefeuille à chatterie. Nous célébrons ce matin les noces voluptueuses des mots qui mettent l'eau à la bouche dans tous les sens du terme. Et vous, quels sont les mots des plaisirs charnels et de la gourmandise qui agitent votre imagination? Nous attendons vos témoignages par courriel, grand bien vous fasse à radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter. Elias et Francesca attendent vos coups de fil au 01 45 24 7000. Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
En duplex du festival de Cannes, tout va bien à Cannes?
Ah, écoutez, tout va très bien. On a déjà vu des beaux films. Il fait beau. Il s'est pas mis encore à pleuvoir. Tout va bien.
Et on vous retrouve dans quelques minutes pour votre chronique La vie des films. Et notre camarade Éric Libiot de l'Express est actuellement en projection. Rassurez-moi, il sera là, en fin d'émission, pour sa petite mythologie d'un objet du quotidien.
J'irai le chercher s'il le faut. J'irai le chercher.
Et Guillemette Odissino, on attend avec impatience vos mots du plaisir. À tout à l'heure.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
C'est une légende vivante, on dit qu'il mange les chattes à la perfection.
Tu veux bien arrêter de parler comme ça?
Je préfère que je dise descendre à la cave ou nounouter.
Oh, ça suffit, hein.
Oh, comme elles sont fermes.
Regarde-moi la beauté.
Oh, nom de Dieu, quelle merveille.
Voilà, ça, c'est un fier allure. Bah, écoute, c'est sublime.
Tu peux manger ta sucette maintenant. Plante ta douille et hop, dans les boules.
Long. Majestueuse et rose.
Après, je mets mon doigt. Je commence à le prendre et à lui sucer le verre.
Voilà, c'est bon.
C'est bon.
C'est bon, hein?
Vas-y, tranquille, c'est bon. Vas-y, tranquille, c'est bon, bon.
Oui! Oui! Oui!
Donnez-moi la même chose qu'elle.
Les noces des plaisirs de la chair et de la bonne chair dans un medley signé Lauren Bess. Avec nous autour de la table pour célébrer les mots des plaisirs charnels et de la table, Marc Le Carpentier, bonjour.
Bonjour.
Ancien président du directoire de Télérama, vous êtes le directeur artistique du Festival du Mot qui se tient tous les ans dans la Nièvre à la Charité-sur-Loire du 24 au 28 mai prochain. C'est quoi en deux mots le Festival du Mot?
Il s'agit de proposer au public de partir des mots pour aller à la rencontre d'un certain nombre de sujets qui parfois, lorsqu'ils sont abordés par des essais, paraissent un peu plus complexes. C'est aussi une volonté de lutter contre les déterminismes sociaux. Je sais bien que c'est un peu une tarte à la crème que de dire ça, mais dans la période où on est, nous avons le sentiment, l'équipe du festival, que aller vers le public pour l'amener vers les mots, pour montrer le plaisir que peuvent procurer les mots, mais aussi les dangers qui sont parfois derrière certains mots, c'est une manière de faire œuvre culturelle, socio-culturelle, c'est-à-dire de prendre en compte l'état de la société pour parler de culture.
Bonjour Mariette Darigrand.
Bonjour.
Vous êtes sémiologue, vous dirigez le cabinet des faits et des signes, spécialisé dans l'analyse du discours médiatique, et vous intervenez tous les vendredis dans l'excellente émission Une semaine en France de notre consoeur Claire Servageon, et vous publiez chez Lemieux Éditeur Sexy Corpus, Voyage dans la chair des mots, et un autre ouvrage.
Je te kiffe, je t'aime, qui est publié chez Folio. Qui vient de sortir, mais qui est en fait une émanation de mon Sexy Corpus, mais là qui compare les mots amoureux d'aujourd'hui et ceux d'hier.
Bonjour Marie-Hélène Bellac.
Bonjour.
Historienne, ancienne élève de l'École normale supérieure, vous avez notamment publié un roboratif dictionnaire gourmand chez Omnibus. Alors, autour de la table, quel rapport intime entretenez-vous avec les mots? Honneur au doyen, Marc Le Carpentier.
Au doyen. Mais c'est vrai. J'accepte. Un rapport de plaisir, d'abord. Si je dois retenir ce que m'apportent les mots, c'est le plaisir des mots de la littérature et des mots de la poésie. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes très fiers d'avoir comme invité d'honneur Christiane Taubira au festival, qui est quelqu'un qui parle de la poésie avec un enthousiasme et une force qui moi me ravit. Je pense que c'est par là que commence le l'apprentissage de la culture. Et je crois que j'ai un petit-fils qui est en train d'apprendre à lire, par exemple, en ce moment. C'est un miracle de voir comment tout d'un coup s'articulent les syllabes pour former des mots et comment les mots s'articulent entre eux pour former des phrases. Voilà le rapport que moi je peux entretenir avec le bonheur de la littérature et le bonheur de la poésie.
Mariette Darry-Grand.
Mais si vous voulez, notre société parle beaucoup des mots gourmands, des mots du corps, des mots charnels, beaucoup de sexe, hein. Il y a beaucoup d'images et beaucoup de mots qui circulent. Donc je crois que c'est très important de faire le tri entre ce qui nous dégrade, je dirais le mot, et ce qui, au contraire, nous valorise, nous sublime et nous permet aussi de relationner. Car le langage érotique, c'est une culture qui permet d'aller vers les autres. Il y a l'idée de l'altérité. Sinon, c'est la pulsion, voire le viol. Hein. La violence sexuelle est très répandue. Donc pour moi, le langage et le choix du langage charnel, c'est un choix, je dirais, de sublimation par le corps.
Marie-Hélène Bellac.
Oui, alors moi je vais parler cuisine et gourmandise, et vous savez que quand on mange, on parle de ce que l'on a mangé, de ce que l'on va manger, et donc les mots, le vocabulaire, la façon d'exprimer tous les plaisirs de la table sont présents dans notre quotidien, je dirais, sont omniprésents.
Et oui, le goût des mots donne encore plus de saveur au plaisir de la table.
Tout à fait.
Mais les plaisirs charnels également, Mariette Darry-Grand.
Ils ont toujours été associés, non seulement par analogie, parce que c'est une façon... Comment l'homme a-t-il fait du langage ? Il a regardé son corps. Et il a regardé ses appétits en quelque sorte. Hein. Donc la libido, elle peut prendre l'objet peut être un bon plat ou l'objet peut être un autre être humain, voire d'autres objets dans certaines perversions. Et donc c'est facile à comprendre quand on avoir faim, avoir soif, c'est quand même très facile à comprendre. Avoir du désir pour un autre corps, les hommes, l'humanité n'a pas tout de suite représenté ce que c'était. Par exemple, l'idée qu'une femme pouvait être enceinte après une étreinte n'est pas venu, semble-t-il, à l'idée tout de suite des hommes. Donc ils ont plutôt pensé, car ils se voyaient aussi dans la cosmologie, que c'était la Lune qui était allée avec le Soleil, par exemple. Et donc tout notre système, c'est pour ça que c'est absolument passionnant de revenir dans la chair des mots, c'est que nous voyons comment notre esprit fait des métaphores sur le corps. Parce que le corps, sinon, c'est l'organique. Voilà. Et donc il faut, pour le désirer vraiment, faire ce que les anciens appelaient l'ars erotica, donc c'est ce que j'ai voulu décrire dans mon livre, c'est-à-dire les séquences pour s'approcher. Et lorsque, d'abord le regard, les premiers mots, les premiers contacts, les premiers mots baisés, et puis vraiment la chair.
Et pour aller dans votre sens, la psychanalyste Sophie Cadalène nous dit que les mots ont ceci de savoureux, qu'ils s'enroulent dans le fantasme, attisent l'envie, décuplent la jouissance. Marc Le Carpentier. Ça vous laisse pensif.
Non, je crois que les spectateurs, les gens qui viendront éventuellement au Festival du Mot à la Charité-sur-Loire dans 8 jours, enfin à partir de mercredi prochain, pourront avoir un bon exemple de ce que nous sommes en train de dire avec une exposition de photographies de manuscrits. Alors là, il s'agit de l'écriture, pas de l'oral, mais les mots sont... pour tous ces gens qui sont exposés, qui vont de Proust à Pérec, de Robbe-Grillet à Maupassant ou d'autres, on voit bien le travail que représente l'expression littéraire. Et moi, c'est ça, c'est une des choses qui me fascine, c'est de montrer au public que l'écriture... Vous savez, il y a une citation, par exemple, dans La Ville, on a peint des mots dans La Ville, des citations. Il y en a une de Julien Green, je crois, qui dit « La pensée vole et les mots vont à pied ». Et c'est une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que quand on pense, on a l'impression d'être assez bon. Quand vous parliez de Télérama, il m'est arrivé d'écrire quelques éditos pour Télérama. Le soir, dans mon lit, j'avais le sentiment d'être très très bon. Et le matin, quand j'étais devant la feuille blanche, d'être très très mauvais. Donc la pensée vole et les mots vont à pied. Et l'exposition qui est à la Charité-sur-Loire montre cette difficulté. Il y a par exemple des manuscrits de Flaubert qui sont absolument merveilleux, totalement fous. Et quand on voit l'architecture, par exemple, de La Vie moderne, d'emploi par Pérec, ou les repeints de Proust sur un certain nombre de textes, moi je suis baba.
Allez, il est temps de retrouver La Vie des films de Guillemette Audicino en duplex du Festival de Cannes.
La Vie des films,
t'as été formidable, tu sais.
Allez, faut pas rester là, voyons, Corneille, va surveiller la fricassée.
Guillemette Audicino.
Ce qui compte, c'est que ça se soit bien terminé.
Tante Guillemette, vous nous racontez quoi de la vie cette semaine en vous appuyant sur un film?
Pourquoi vous avez choisi tant, quel... je, peux pas de... Je peux pas être votre cousine, simplement.
Votre cousine Guillemette, si vous voulez.
Vous me donnez un coup de vieux, là, allez.
Alors, vous avez choisi cette semaine Et au milieu coule une rivière de Robert Redford avec Brad Pitt en 1992, disponible en copie neuve en Blu-ray.
Mon père était pasteur presbytérien et pêcheur à la mouche. L'après-midi, nous l'accompagnions quand il allait se détendre entre deux offices. Il choisissait presque toujours un sentier qui longeait la Big Blackfoot, que nous considérions comme la rivière de la famille. C'était là que son âme retrouvait la paix et que son imagination s'exaltait.
Il y a bien longtemps, la pluie tomba sur l'argile qui devint de la roche. Il y a 1 milliard d'années de ça. Et sachez que bien avant ces roches, les paroles de Dieu étaient déjà là. Écoutez.
Et notre vie durant, Paul et moi, lorsque nous écoutions très attentivement, pouvions entendre ces paroles.
Cousine Guillemette, et au milieu coule une rivière.
Oui, alors Ali, en fait, je me suis dit que vous alliez parler de beaucoup de chair, beaucoup de sensualité, beaucoup de bouffe, et qu'il fallait quand même un petit peu mettre du coup un pasteur presbytérien et de la pêche à la mouche et de l'eau claire et pure au milieu de tout ça pour un peu purifier votre débat. Alors en fait, le film de Robert Redford, ce qui est magnifique, c'est qu'il ressort donc en copie neuve, en Blu-ray, DVD, donc tout le monde peut se le procurer dès maintenant. Mais il est aussi montré à Cannes Classique, vous savez, au Festival de Cannes. Ce qui est bien, c'est que en dehors des films que nous découvrons, on peut en redécouvrir. Et cette année, pour les 70 ans du Festival de Cannes, il y a plein de classiques, très connus ou méconnus, qui repassent. Dont ce film de Robert Redford qui célèbre la simplicité de la vie. Le fait que quand on met ses pieds dans l'eau claire d'une rivière, que l'on regarde la roche, que l'on attrape des truites. Alors c'est mieux d'en attraper, autrement on a l'air un peu con avec notre canne à pêche. Mais même si on n'attrape pas, on regarde cette eau qui coule d'une fraîcheur absolue. Là je suis au bord de la Méditerranée, il fait très très chaud et j'ai presque envie d'être dans le Montana, plutôt au bord d'une rivière. C'est un film en fait qui parle du choix de la vie aussi, parce que ça raconte l'histoire de deux frères, comme vous l'avez entendu. Il y en a un, il est nettement plus insolent, nettement plus tenté vers l'aventure, vers le danger. Et celui qu'on écoutait en voix off, il est plus sage, il est plus raisonnable. C'est un peu les deux faces d'un homme, comme les deux faces d'un steak. Mais il y en a un qui est nettement plus cru et l'autre qui est déjà un peu plus mûr, un peu plus mature. Il faut vraiment redécouvrir ce film dont on a dit qu'il était assez académique, moi je dirais classique, qu'il prenait trop son temps. Non, il prend juste le temps de rappeler quelques petites choses essentielles de la vie et de nous faire comme un bain. En fait, c'est un peu un baptême de cinéma, se plonger dans cette rivière-là.
La vie des films, c'est terminé. Parce que je ne vous vois pas, vous êtes à Cannes. Vous avez terminé?
Mais oh oui. Mais moi non plus, je ne vous vois pas. Et c'est tellement difficile. Pour en plus, dans une émission sur la sensualité, sur la chair, ne pas vous voir, Ali.
Bon. La vie des films de Guillemette, Odissino. Vous restez évidemment avec nous tout au long de l'émission.
Ah, j'ai un mot super, moi, sur le sexe et la bouffe.
Ben vous nous le direz tout à l'heure, hein, Guillemette. Oui. Hein. Allez, c'est une émission préparée par les Funny Girls, Laure Grand-Besançon et Lauren Bess, Clara Marliot, et c'est réalisé par Claire Destacan.
Zazie a sa visite aux eaux. Zazie, suçant son zan, s'amusait d'un verluisant d'Isidore Ison. Quand zut un vent blizzard, fusant de son falzar, voici zigzagant dans les airs. Zazie et semble les airs l'oiseau. Des ailes épaisses aux ombres, de faute osée. S'éclate dans l'azur aussi légère que bulle d'alcan celtienne. Elle visionne le zoo, survolant chimpanzés, gazelles, lézards, zébubus et grizzlies d'Asie, l'oiseau des îles et pris aux zoos. Pas l'autre zèbre, bonne zigzazie, le fusillant de bisous, lui fait voir son bazar, son zip et son zippo, fondu de argent, scazo.
Jane Birkin, exercice en forme de Z.
France Inter, grand bien vous fasse.
10h24 et ce matin nous célébrons les noces des mots charnels et des mots de la bonne chère avec Marc Le Carpentier, directeur artistique du Festival du Mot à la Charité-sur-Loire, de Mariette Darigrand, sémiologue, qui publie « Je te kiffe, je t'aime » et avec Marie-Hélène Bellac, historienne et auteure d'un dictionnaire gourmand que je ne me lasse pas de dévorer. Et vous dites-nous hein, au 01 45 24 7000 hein, quels sont les mots du plaisir, de la chair et de la bonne chère hein, qui vous mettent dans tous vos états. Vous pouvez également nous envoyer vos mots par courriel grand bien vous fasse à radiofrance.com. Tiens, Mariette Darigrand, il y a une expression de plaisir qui vous plaît beaucoup, faire les fruits et légumes.
Ah oui, j'adore cette expression.
Ça veut dire quoi? Bon, on imagine un peu, mais...
Ben voilà, il faut imaginer, ça n'est que ça. C'est, hein, c'est fait pour ça, la gourmandise des mots, c'est exactement ça, c'est l'imagination au pouvoir. Alors ben, ça veut dire les préliminaires. Préliminaires, c'est pas très beau, hein, franchement, comme expression. Voilà. Donc je voulais, c'est pour ça que j'ai comparé dans mon livre « Je te kiffe, je t'aime » des expressions actuelles, préliminaires, voire faire du monosexe ou faire de l'autokiff. Bon, ça, c'est un peu rigolo, mais la sexologie nous a beaucoup envahis et il s'agit d'aborder la sexualité comme le travail, si vous voulez, d'autres compartiments de la vie. Alors que faire les fruits et légumes, eh ben, on s'amuse, c'est gourmand, c'est une expression traditionnelle hein, qui était là, la métaphore est évidente. Se lécher la poire, se grignoter la fraise. Bon, voilà, tout le monde sait ce que c'est. Simplement, c'est tout à fait intéressant de la reprendre aujourd'hui, au moment où nous avons un autre catéchisme concernant les fruits et légumes. Eh ben, c'est le vegan, c'est le bio, c'est le sport.
Le sain.
Exactement. Non, mais c'est manger 5 fruits et légumes par jour, ça devient une contrainte. Alors que faire les fruits et légumes, comme vous en avez envie, avec qui vous avez envie, et à l'heure qu'il vous plaît, ça, c'est tout à fait intéressant.
Marie-Hélène Bellac, vous pouvez nous lire quelques lignes du Ventre de Paris de Zola?
Oui, absolument.
Assez évocateur.
Oui. Il évoque la Sarriette, qui est une marchande de fruits et légumes. Et il dit ceci. La Sarriette était adorable au milieu de ses fruits, avec son débraillé de belle fille. Ses cheveux frisottants lui tombaient sur le front comme des pampres. Ses bras nus, son cou nu, tout ce qu'elle montrait de nu et de rose avait une fraîcheur de pêche et de cerise. Et un peu plus loin, elle avait la bouche rouge, une bouche maquillée, fraîche du jus de groseille, comme peinte et parfumée de quelques fards de sérail. Une odeur de prune montait de ses jupes, son fichu mal noué sentait la fraise. On est vraiment dans ce que disait Mariette. Hein.
Alors Mariette Darigrand, en lisant votre ouvrage Sexy Corpus, j'apprends que à l'origine, l'orgasme détient un sens alimentaire.
Ben oui, alors quand vous tapez aujourd'hui « orgasme » sur Google, vous trouvez un orgasme pour un gâteau au chocolat, pour un bon plat.
Enfin, surtout le chocolat.
Surtout le chocolat. La gourmandise est orgasmique. Bon, ça m'a intriguée cette histoire, parce que je me suis dit, soit nous devenons obsédés sexuels, soit au contraire, nous désexualisons. C'est une question très intéressante. Mais en fait, quand on prend l'histoire du mot, on voit qu'il y a, la racine est alimentaire. C'est le cas de le dire, hein, il y a une racine indo-européenne, c'est-à-dire avant même le latin et le grec, il semble qu'il y ait une racine Urga, Urja, qui donnera d'ailleurs le mot orge, qui a été une des manières de parler de la semence masculine. Et donc cette racine, elle est gorgée de sucre pour que l'humanité se perpétue. Mais qu'est-ce que c'est qu'une racine gorgée de sucre qui s'élance vers le ciel? Vous voyez à peu près la métaphore visuelle. Et donc, l'orgasme a été le sexe masculin au moment du plaisir. Et puis, par métonymie, comme on dit, par le sens s'est répandu pour parler du plaisir en général. Mais ça m'intéressait de comparer ce mot qui est devenu banal, galvaudé aujourd'hui, qu'on dit à peu près à partir de n'importe quel plat culinaire, de le comparer avec des mots traditionnels comme la sublime crise, comme l'abandon, qui est un mot absolument merveilleux et qu'il faut non pas imposer, mais dont il ne faut pas se départir, je crois, aujourd'hui.
Alors, en préparant cette émission, j'ai appris que l'orgasme rendait plus bavard. En effet, l'orgasme entraîne une libération, la libération d'une hormone, l'ocytocine, dans le corps, qui procure un grand sentiment de bien-être. L'ocytocine est l'hormone de l'amour, mais aussi de la confiance, et les partenaires sexuels se confient beaucoup plus après un orgasme. Et Sam Attahari l'avait bien compris, hein, Marc Le Carpentier. Hein.
Je suis pas sûr d'être le spécialiste de cette affaire-là.
Vous parlez beaucoup après l'orgasme?
Écoutez, non.
Non, vous dormez.
Je ne crois pas, mais on va peut-être pas faire une émission sur la vie privée, si vous voulez bien.
Alors, Mariette Darigrand, un grand érudit du vocabulaire et contributeur du Robert historique d'Alain Rey, Pierre Guiraud, nous explique que le vocabulaire français a toujours raconté le sexe selon quatre grandes thématiques. La thématique du travail, le registre de la guerre, le thème du voyage et enfin la thématique du jeu.
Oui, bien sûr. Voilà, il y a des. C'est, quand on parle aujourd'hui, les sexologues ou les sociologues parlent volontiers du sexe récréatif, dont ils accusent un peu les nouvelles générations. Tout se dégrade, tout se perd, ma pauvre dame. Alors que le ludisme, le jeu sexuel, bah, est vieux comme l'humanité. Et on le voit dans le vocabulaire. C'est tout à fait intéressant. Je sais pas. Vous avez le jeu du passe-avant, le jeu. Il y a beaucoup de le jeu des menottes, le jeu des quenottes, le que sais-je. D'ailleurs, avec un vocabulaire souvent lié à l'enfance, parce que Freud a bien montré que le bébé était un pervers polymorphe, mais l'adulte reste aussi ce pervers polymorphe et peut s'amuser. Et dans la société actuelle qui est, comme on dit, gamifiée, nous jouons à beaucoup de choses. Je crois que l'enjeu du sexe, qui n'est plus tellement la libération, puisque notre société est très permissive, peut être le jeu, le ludisme, y compris avec le vocabulaire. Et bon. Donc on va parler tout à l'heure de faire Catlia, mais ça c'est une grande belle invention proustienne. Mais quand vous regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, etc., les gens font preuve de beaucoup d'imagination et de ludisme pour parler de leur vie privée, comme ne veut pas le faire Marc.
Bonjour Blandine Le Callet.
Bonjour Alice.
Vous êtes maître de conférence en littérature latine, auteur d'une pièce montée et de la ballade de Lilaca, deux romans disponibles en poche. Alors la romancière que vous êtes prend parfois son pied avec les mots. Il y a un mot des plaisirs charnels qui vous plaît beaucoup, c'est le mot plume et plus particulièrement l'expression qui va avec.
Écoutez, quand vous m'avez dit de chercher un mot hier, j'ai tout de suite pensé à ce mot qui est mon mot préféré à vrai dire. Et que j'aime pour plein de raisons. Bon, d'abord, il évoque ce petit objet souple, doux, léger, élégant, moelleux, comme un oreiller, un édredon. Donc, on pense déjà au plaisir de la chair. Et puis, c'est la plume de l'écrivain, ce qui implique un côté acéré, énergique et une certaine rigidité. Donc, vous voyez où je veux en venir. Hein. La plume, c'est aussi la métaphore du sexe masculin. Et c'est vraiment ça qui me plaît dans ce mot, c'est son côté faussement innocent, l'air de pas y toucher comme ça, et c'est vrai que quand on saisit sa plume, c'est pour s'adonner à une activité littéraire, mais quand on taille une plume, c'est une activité beaucoup moins littéraire, quoique très agréable, et dont il est parfois question en littérature aussi. Donc moi j'aime bien les mots qui se déguisent un peu. Celui-là, il est très sensuel, mais il est très coquin.
Mariette Darigrand.
Double sens, évidemment, parce que le langage érotique, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut vouloir dire quelque chose de très innocent et puis, en même temps, dire quelque chose de très coquin. Et c'est ce qu'on appelle aussi le marivaudage, qui est d'ailleurs un mot inventé par Diderot, dans une de ses des lettres à Sophie Voulant. Donc je partage tout à fait ce goût pour pour ce mot qui est vraiment à double détente, si on peut dire.
Alors Blandine Le Callet, dans un registre culinaire, il y a un mot valise que vous utilisez dans votre famille quand vous dégustez un très bon plat.
Oui, ça c'est un néologisme familial en fait qui a été inventé par ma fille lorsqu'elle était toute petite. Elle avait 2 ans et demi, 3 ans et je me souviens plus du tout de ce qu'elle était en train de manger. Mais visiblement c'était un émerveillement gustatif et à un moment elle a levé la tête et elle nous a dit c'est succulis. Et donc c'était l'association de succulents et de délices et on a tellement ri que c'est resté. Et donc voilà, ça fait partie du vocabulaire familial maintenant quand quelque chose est vraiment très très bon, mais attention, c'est réservé aux plats exceptionnels, donc on dit c'est succulis.
C'est succulis. Merci beaucoup Blandine Le Callet en ligne avec nous depuis la Bretagne. Bonjour Denise.
Non, je suis pas en Bretagne, je suis en Aquitaine.
Non, je parlais à Blandine Le Callet qui était en Bretagne. Bonjour Denise, vous êtes en Aquitaine donc.
Oui.
Alors que vous inspire notre sujet du jour ?
Eh bien, j'ai vécu longtemps au Brésil, à Rio, et je voulais vous dire que dans la langue portugaise utilisée au Brésil, le mot « manger », il signifie « manger », mais il signifie aussi « faire l'amour ».
C'est le mot « comer », c'est ça ?«
Comer », comer, ouais, comer, ouais. C'est « manger », mais c'est aussi, on dit « comme vous savez, je te mange », ou « j'ai envie de te manger ». Et c'est très courant, on le trouve dans la poésie beaucoup, on le trouve dans les chansons, on le trouve... Je veux dire que c'est un mot d'argot qui est passé complètement dans le langage courant, et ce double sens est permanent. Ça correspond un peu à l'esprit de l'âme brésilienne, où la sexualité est tout à fait intégrée dans la vie, de façon plus exubérante et libre que chez nous.
Marie-Hélène Bellac, sur le double sens du mot comer, manger et faire l'amour.
Oui, il y a beaucoup de mots qui sont dans ce cas, d'autant que tout à l'heure, on parlait du fait que l'amour passe par différentes phases. Mais manger, c'est exactement la même chose. D'abord, on apporte le plat, donc il est appétissant, alléchant, il donne envie, il met l'eau à la bouche. Et puis ensuite, il y a les phases suivantes qui mènent à la dégustation et qui font appel à tous les sens. D'abord, on voit le plat, ensuite on le sent, les parfums, et puis ensuite on le goûte, le toucher, le goût. On peut même entendre si ça craque sous la dent. Donc il y a toute cette hiérarchie très importante.
Merci beaucoup Denis, je ferai attention quand j'irai au Brésil avec ce mot « comer hein. ». J'essaierai de l'utiliser à bon escient. Hein.
Mais... images sont présentes, c'est-à-dire que ce que madame vient d'expliquer à l'instant, c'est tout à fait présent dans cette idée de manger, c'est pas de la dévoration sauvage, enfin ça peut le devenir, mais c'est avec toutes les phases, quoi, on sent, on approche, on touche, voilà.
Marc Le Carpentier.
Oui, juste sur ces mots qui sont à double sens, il existe un livre, je vais faire un peu de pub pour deux dames qui sont Yolande Zoberman et Paulina Spiekovic, qui est un livre qui s'appelle « Les mots qui nous manquent ». Et c'est étonnant de voir comme le français, qui est pourtant une langue extrêmement précise dans un certain nombre de domaines au moins, est incapable de trouver des mots pour un certain nombre de sensations ou de choses comme ça. Et Yolande Zoberman et Paulina Spiekovic ont répertorié tous ces mots d'autres langues qui ont un sens tout à fait... magique et intraduisible en français. Et je trouve que c'est vraiment formidable. Elles seront au Festival du Mot d'ailleurs pour en parler.
Merci beaucoup Denise de nous avoir appelé. Allez, j'aimerais cueillir avec vous quelques mots emplis d'une force érotique et vitale assez forte. Tiens, feuilleter les lèvres, Mariette Darigrand, expression que l'on retrouve dans les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Valmont qui écrit à Madame de Tourvel, j'aimerais tant feuilleter vos lèvres, Madame.
Oui, c'est une magnifique expression des salons du 18e, effectivement, où il se passait beaucoup de choses. On parlait, on mangeait, on buvait, et plus si affinité. Et donc, l'approche, exactement, effectivement, comme devant un bon plat, hein, on salive déjà à l'avance, hein, l'approche se faisait... En plus, les hommes qui étaient là étaient des hommes très doués avec le langage, c'était des philosophes, c'était des écrivains, etc. Et donc, il y a eu cette métaphore « J'aimerais tant feuilleter vos lèvres, madame », qui, bien sûr, annonçait le sexe oral, très oral, qui peut-être allait suivre, mais d'une manière extrêmement livresque, justement. Donc, ils restaient dans leur position d'intellectuel, les deux étaient intellectuels. La femme était une salonarde et l'homme était, mettons, un philosophe. Et j'ai voulu aussi montrer ça pour montrer que les grands intellectuels de la littérature, hein, Laclau ou d'autres, et, ou Verlaine, hein, que je cite pas mal, bah, ce sont des êtres de chair et qu'ils n'ont jamais été aussi créatifs avec le langage que quand ils sont désirants. Et c'est une vision de la culture, ça, parce que souvent on a l'impression que c'est des vieux monsieur, des monuments, si vous voulez, qui n'ont jamais joui ou qui n'ont jamais désiré. Non, non, c'est tout le contraire.
Alors restons dans la veine littéraire, Marc Le Carpentier. Faire Cattleya, que l'on retrouve chez Proust dans Un amour de Swann. Or, le Cattleya est un genre d'orchidée à grandes fleurs, richement colorée, nous dit le petit Robert de
oui,
la langue française.
Mais, chacun sait ça. Swann courtise Odette et il n'ose pas. Et voilà, et il emploie ce terme, faire Cattleya, pour faire l'amour, très, très clairement. Moi, ce qui j'ai choisi cette expression à cause d'un souvenir d'enfance. Voilà, on va y venir à la vie privée. Vous avez...
enfin, on y vient.
Un souvenir d'enfance, enfin d'enfance, de grande enfance. C'est d'une émission de Pierre Dumayet. C'était une époque où la télévision parlait de littérature avec un talent exceptionnel, avec Dumayet. Et il y a eu une émission de 20 minutes pour savoir pourquoi Proust avait enlevé un T à Cattleya. Et c'était un suspense merveilleux. Et c'était, on apprenait des choses. Donc moi j'aime beaucoup cette expression parce que voilà, ne pas dire pour dire, c'est une chose qui me ravit. C'est le fondement, ou dire le contraire pour dire ce qu'on veut dire, c'est des choses qui me ravissent, le fondement de l'ironie par exemple. Et j'aime bien faire Cattleya, mais je crois que Mariette aussi.
Ben oui, faire Cattleya, c'est merveilleux parce que c'est très courtois. En fait, ça, notre tradition culturelle est formidable parce que un écrivain du début du XXe siècle peut reprendre une métaphore qui était déjà là au Moyen-Âge, etc. Parce que la dame, Odette, met son orchidée sur son corsage pour dire à Swann, ce soir vous pourrez. Vous voyez, c'est extrêmement codé. Et mais elle dit aussi qu'elle-même, est une fleur de grand prix. Et donc, tous les amants qui viennent après ou avant les poètes, peuvent faire à leur tour Cattleya, c'est-à-dire inventer leur propre périphrase.
Faire Cattleya qui peut mener à l'abandon. Ah, vous aimez ce mot abandon, Mariette Darrigrand?
Alors, je l'aime d'autant plus que je l'oppose dans mon livre au lâcher prise. Vous ne pouvez pas aujourd'hui ouvrir un magazine, etc. Il faut lâcher prise pour tout. Pourquoi pas? Bon, mais c'est une métaphore qui renvoie plutôt à la chasse à course. Ça me plaît beaucoup moins que l'abandon. Parce que ce qui me plaît dans l'abandon, c'est le banc. Comme dans publier les bans. Ban, ça veut dire la loi. Et donc, c'est un concept fondateur du rapport amoureux en Europe, qui est très codé justement, où l'homme se met au bandon de la dame, c'est-à-dire à genoux, comme devant son cheval, comme devant son seigneur, fait allégeance, se met à son service et renverse la violence. Parce que avant, on est un peu comme dans Game of Thrones, hein, on se saute dessus. Avec l'abandon, l'homme se met au service de la dame et commence le processus de civilisation qui conduit à notre mixité, qui a des ratés bien sûr, mais qui est absolument un trésor culturel qu'il faut garder. Je suis donc pour l'abandon, qui veut dire bien sûr plaisir aussi.
Allez, nous poursuivons dans quelques minutes notre cueillette des mots du plaisir, de la chair et de la bonne chair. 01 45 24 7000, grand bien vous fasse @radiofrance.com. Et vous pouvez également nous contacter sur notre page Facebook. À suivre, La Fausse Pub de François Audouin.
Find words to tell you I'm sorry. Make you understand. I mean just what I say. After all that I've heard, well, why should I worry? When we ride the fine line between love and hate, if I had been wrong, oh, how could I doubt you? Now I'm all alone, my life in disarray. Try as I might, I can't live without you. So I cling to the hope of a bright, brighter day. Oh, I know we've been through this all before.
En 1989.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Après le succès du dictionnaire amoureux de la chasse, du dictionnaire amoureux des trains ou encore du dictionnaire amoureux des dictionnaires, découvrez le dictionnaire amoureux des mots qui font siffler les oreilles. Rapace, testicule, cervelas, concupiscent. Avec le dictionnaire amoureux des mots qui font siffler les oreilles, redécouvrez les mots les plus insupportables de la langue française qui vous donneront la nausée instantanément. Avec les célèbres coloscopie, truie, bidet, croûte, globe oculaire. Grâce au dictionnaire amoureux des mots qui font siffler les oreilles, retrouvez tous les mots les plus horribles à employer pour faire fuir votre interlocuteur. Le dictionnaire amoureux des mots qui font siffler les oreilles, une édition Graisseux.
La fausse pub du vendredi de François Audouin avec la voix d'Éric Oswald de 10h45. Vous vouliez faire un commentaire,
juste
Marc Le Carpentier.
Non, parce qu'il y a concupiscent qui a été cité. Et sur les murs de la charité, il y a cette citation de Jean-Yann qui me fait hurler de rire. C'est concupiscent, c'est pas un mot, c'est un rébus.
La charité, c'est le lieu où se déroule.
Yves Jean-Yann.
La charité, c'est le lieu où se déroule votre festival du mot à partir du 24 mai. Avec nous ce matin pour célébrer les noces des mots charnels et des mots de la bonne chair, le journaliste Marc Le Carpentier, la sémiologue Mariette Darigrand et l'historienne Marie-Hélène Bellac. Vous aimeriez, Mariette Darigrand, réhabiliter un mot. C'est le mot somate.
Oui.
Somate, alors... proposé par Rabelais pour désigner le membre viril.
Le membre viril, et en particulier, et le corps plus généralement, parce qu'en fait, allez, Rabelais...
Et le membre viril en particulier.
Vous y tenez, absolument.
Je ne tiens pas, c'est vous qui le dites dans votre ouvrage.
Alors c'est drôle parce que Rabelais, qui était un grand inventeur de mots, un grand peintre de la cuisine aussi, des aliments, alors, vraiment lui il s'est beaucoup amusé avec ça. Je pense que somate lui faisait penser à tomate comme nous. Mais alors c'est drôle parce qu'il y avait à son époque le corpus, c'était le mot latin pour dire corps, parce que somate ça veut dire corps. Hein. Donc il y avait le corpus, mais le corpus, vous savez que Rabelais se moquait à la fois de son sens intellectuel, les sorbonnards, etc., les gens qui savent tout, et puis l'Église, et puis les médecins comme lui. Et donc il a repris ce qu'il faisait souvent, un mot grec, corpus c'est latin, et le mot grec c'est soma, qu'on a dans somatisation aujourd'hui, c'est-à-dire dans un sens un peu noir. Dès qu'on a un problème, on somatise et puis on a des maladies. Alors que lui, il employait dans un sens, au contraire, très une fierté personnelle, j'imagine, et puis un sens très vital, vivant, la soma. Et ce qui est très amusant, c'est que en grec, c'était le soma, et il l'a féminisé. comme ça précisément d'un petit coup de plume, et c'est tout à fait merveilleux. Mais ce mot n'a pas duré, c'est ce qu'on appelle un apax, ça reste, ça, c'est une création et puis ça ne dure pas. Et malheureusement, je voudrais bien
le réhabiliter. Mais oui, vous écrivez, redécouvrir le mot somate aujourd'hui, c'est planter ses dents et ses neurones dans un trésor juteux, sucré-salé, bien charnu, gorgé d'énergie vitale et lexicale. Marie-Hélène Bellac, vous avez choisi le mot chatterie, qui détient un double sens, hein.
Oui, absolument. Une chatterie, c'est une douceur qu'on sert à la fin du repas, au dessert. Mais bien sûr aussi, ça peut être un câlin amoureux, une caresse. Donc c'est bien là la rencontre, effectivement, des plaisirs de la table et des plaisirs de l'alcôve, on pourrait dire, hein, mieux que du lit, qui se retrouvent. Mais il y a bien d'autres mots.
Hein, et le synonyme de chatterie, c'est gâterie d'ailleurs.
Gâterie, oui, oui, tout à fait.
Guillemette Audicino, depuis Cannes, il y a un mot qui vous met en joie, c'est le mot jouir. C'est le mot que vous m'avez proposé en préparant cette émission.
je trouvais que...
Il n'y a pas de lien avec le mot précédent de Marie-Hélène Bellac, hein, je vous rassure.
Ah bon? Non, non, je pense que oui, c'est le minimum syndical, mais je trouve que c'est un très joli mot, il est court, et on peut insister sur le « i ». On peut le prononcer pointu ou le prononcer beaucoup plus grave et longuement. Et puis en plus jouir, ça, on peut jouir d'un bon vin, jouir d'un gigot saignant, jouir d'un homme, jouir grâce à un homme. Enfin, c'est un mot multifonction. J'aime bien. C'est le couteau suisse du plaisir.
Bonjour Éric Libio.
Bonjour.
Vous êtes sorti de votre projection à Cannes.
Je suis sorti. J'ai même pas vu la fin. Vous voyez comme quoi. Tout ce que je vous dois, tout ce que vous me devez.
Un mot. Un mot du plaisir charnel qui excite vos sens et vos neurones.
Eh bien, je voulais juste rebondir sur le mot jouir. C'est vrai que dans jouir, il y a ouïr et que le son, les cris font aussi partie du plaisir et que dans ce verbe-là, les deux soient mélangés. Je trouve ça assez figurant. Incarné. Moi, ce que j'aime, c'est, pour reprendre un titre d'un bouquin d'Alain Millet-Nouton qui n'a strictement rien à voir, c'est « Stupeur et tremblement ». Je trouve qu'il y a ce genre d'affect, de ressentiment, de sentiment entre la stupeur toujours renouvelée et puis le tremblement, parce que ce soit les premières fois ou les 20e fois ou les 150e fois, il y a toujours quelque chose de l'ordre du renouveau.
Patrice nous dit sur notre page Facebook qu'en Turquie, certains desserts s'appellent les mille et une nuits, les lèvres de la bien-aimée, le nombril de dame, la cuisse des dames. Marie-Hélène Bellac.
Le bras de Vénus en France, ouais. Le bras de Vénus qui est ce gâteau roulé avec une crème à l'intérieur.
Oui. Alors Marie-Hélène Bellac, chez le gourmet ou le gourmand, les mots sont essentiels. Hein. Ils parlent sans cesse, le gourmand ou le gourmet, de ce qu'il est en train de manger, de ce qu'il a mangé, de ce qu'il va manger. Et il me semble qu'un repas qui ne parle pas de nourriture manque de saveur. Un repas qui manque de mots manque de saveur.
Ah oui, 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 puisque le plaisir s'exprime par les mots. Nous sommes des êtres humains, hein, c'est, je dirais, normal. Et ce qui est intéressant, c'est que la palette pour exprimer ses plaisirs est extrêmement large. Parce que, comme je disais tout à l'heure, hein, le repas fait appel à tous les sens. Donc on va avoir des mots, je dirais, généralistes, du type appétissant, alléchant avant même de manger. Puis ensuite, le repas est bon, délicieux, savoureux, etc. Et puis ensuite, on a des mots plus précis qui peuvent d'ailleurs être des mots du vocabulaire courant. Je pense à Flaubert dans Salammbô qui décrit cet extraordinaire repas des mercenaires, offert aux mercenaires au début de son roman. Et il utilise des mots courants qui finissent par constituer, faire une alchimie pour donner une envie extraordinaire de manger ce repas.
Vous pouvez lire quelques lignes de Salammbô ?
Oui, bien sûr. Hein. D'abord, on leur servit des oiseaux à la sauce verte, dans des assiettes d'argile rouge rehaussées de dessins noirs, puis toutes les espèces de coquillages que l'on ramasse sur les côtes puniques, des bouillies de froment, de fèves et d'orge, et des escargots au cumin sur des plats d'ambre jaune. Ensuite, les tables furent couvertes de viande. Antilopes avec leurs cornes, paons avec leurs plumes, moutons entiers cuits au vin doux, gigot de chamelle et de buffle, hérisson au garum, cigales frites et loirs confits. Et il y en a comme ça sur 2-3 pages. Et vous voyez aussi, on voit le repas, hein, la les couleurs, les ensembles. Et je pense à quelque chose. Vous savez que pendant longtemps, bon, le banquet est une grande tradition, hein, en France. D'ailleurs, il n'y a pas de fête sans banquet, hein, soyons clairs, sans bon repas. Et au Moyen-Âge, entre les plats principaux, il y avait ce qu'on appelait les entremets. Et ce n'était pas seulement une question de manger, c'était aussi de montrer. Par exemple, il y a un grand banquet très connu qui a été au milieu du XVe siècle, c'est le duc de Bourgogne, Jean le Bon. Il voulait prêter serment pour aller délivrer Constantinople. Et on apporte un éléphant qui porte une tourelle sur laquelle se trouve une belle dame qui le supplie de partir délivrer. Et on lui amène un pont. Qui est toute avec un grand collier d'or et de pierreries. Donc il y a ce côté aussi des différents plaisirs qui s'associent.
Guillemette Audicino, cette évocation de Salammbô vous a donné faim ? Vous qui êtes la reine, vous qui êtes la reine de la blanquette, paraît-il.
Écoutez, ça c'est très gentil, Ali, parce que justement, je n'ai pas choisi le mot blanquette.
Mais le mot mijoté, après d'être
tenté par l'autosatisfaction. Mais c'est, si vous dites oui, et le mot mijoté. Oui. Mais mijoté, c'est parce que aussi il y a un petit côté aussi séductrice. On peut faire mijoter un homme aussi.
Marc Le Carpentier.
Aller dans le même sens que Marie-Hélène Bellac, Sartre théorise très bien l'idée que les mots cachent parfois la simple phonie des mots dit des choses. Et par exemple, un gâteau rose, on l'imagine pas sucré. C'est tout à fait étonnant, ça. Et chez Flaubert, là, dans le texte que vous avez lu, on sent ça. Il y a ça derrière. Dans les mots, il y a la couleur des mots détermine des choses.
Marc Le Carpentier, pourquoi aimez-vous le mot millefeuille, prélude d'un plaisir gustatif? Non, mais c'est le prélude, déjà le mot millefeuille, c'est le prélude d'un plaisir gustatif assez orgasmique.
Oui, c'est un gâteau qui a effectivement la couleur des mots, mais au-delà de ça, je trouve que le millefeuille, cette chose que Grimaud de la Reynière avait célébrée très, très sérieusement à un certain moment, c'est pour moi une association assez magique entre des pâtes feuilletées, des couches de pâtes feuilletées, et puis une crème pâtissière qu'on retrouve d'ailleurs dans la tarte tropézienne quand elle est bien faite, et c'est très rare. Si Guillemette fait bien la blanquette, moi je m'essaie parfois la tarte tropézienne, et ce mélange de chantilly et de crème pâtissière est très dur à réussir.
Et Patrick, sur notre page Facebook, nous dit qu'au Niger, au pays des Haoussa, faire l'amour se dit chi gâteau, et manger du gâteau, et ben ça se dit aussi comme ça. C'est assez amusant. Merci à tous d'être venus, on l'a vu, brièvement, les mots des plaisirs, de la bonne chair et de l'amour forment un beau couple, et utiliser des mots culinaires pendant l'amour, et ben c'est assez jouissif. Merci Marc Le Carpentier. Le Festival du Mot se tient du 24 au 28 mai à la Charité sur Loire dans la Nièvre. C'est quoi le mot de l'année 2017?
Renouvellement par le jury, renouveau par les 130 000 internautes qui ont voté, et je trouve que cette complémentarité est formidable, parce que le renouvellement qu'a choisi le jury présidé par Roland Kayrol et auquel participait Mariette laisse penser que le renouveau est possible.
Merci également Mariette Darigrand. Je signale la sortie de Je te kiffe, je t'aime en folio. Merci Marie-Hélène Bellac. Votre gros dictionnaire gourmand est publié chez Omnibus. Tout de suite, la petite mythologie d'un objet du quotidien avec Éric Libiot. Éric Libiot, rédacteur en chef culture à l'Express en duplex de Cannes. Alors ce matin, vous avez choisi un objet sec comme un coup de trick, la matraque.
Mais oui, parce que Marc Le Carpentier vient d'en parler dans le cadre de la charité. Il y avait effectivement le vote pour le choix du mot de l'année. Alors il y avait différents mots, hein, Marc l'a dit, et il n'y avait pas vraiment d'objet. Il n'y en avait qu'un choisi par les élèves de la Nièvre, mais qui donc n'a pas gagné, si je puis dire. C'était la matraque. Alors vous me direz que c'est pas forcément un objet du quotidien, la matraque. On la met pas forcément dans son salon, dans un vase, et on l'utilise pas forcément. Au petit déjeuner, seules les forces de l'ordre en ont un usage quotidien, rangé à la ceinture ou brandi au poing, ou même parfois une matraque dotée d'une vie propre, capable de se déplacer toute seule et d'aller là où elle ne doit pas aller. Pour revenir au quotidien, ce qui semble le plus proche de la matraque, finalement, c'est le rouleau à pâtisserie. Et il est vrai que dans l'imaginaire collectif, on l'a lu dans les romans de gare ou dans les comédies pas forcément comiques, le rouleau à pâtisserie peut servir de matraque quand madame confond son mari avec un cambrioleur, alors que l'époux rentre juste totalement bourré à 5h du matin en chantant la javanaise. D'où ma question, la matraque, elle, peut-elle servir de rouleau à pâtisserie? Eh bien, sans doute pas si l'on considère que maintenir l'ordre n'est pas forcément de la tarte. Mais peut-être que si, finalement, si l'on considère que maintenir l'ordre, c'est du gâteau. D'où ma conclusion provisoire, pour ne pas se mélanger les pinceaux, le rouleau à pâtisserie doit rester dans le tiroir de la cuisine quand la matraque doit rester à la ceinture. Ce que j'ai tout de même découvert au bout de mes longues recherches et de mes longues réflexions, parce que je réfléchis beaucoup à cette chronique, Ali, à votre émission, je sais la haute tenue de cette émission sur la matraque, c'est que son ancêtre en France, dans les années 50, s'appelait, tenez-vous bien, le bidule. Oui, le bidule. Enfin, un peu de poésie dans un monde de brutes. Alors, vous imaginez la conversation entre deux policiers à l'époque, l'un aguerri, l'autre novice, avant leur ronde de nuit. Tiens, passe-moi le bidule, Marcel. Le quoi? Le bidule, le machin, là. Faudrait savoir, le machin ou le bidule? Et c'est la même chose. Ah ben non, c'est pas la même chose. Le bidule, le machin, le truc, le bitonio, ce n'est pas pareil. Fin de la conversation. Et oui, Ali, chaque mot a sa chose, chaque objet a son mot. Ou alors tout fout le camp, tout part en vrille, et comment voulez-vous que la France puisse bien marcher si le bidule signifie autre chose que le bidule? D'où l'invention du mot matraque pour signifier le bidule, c'est tout de même beaucoup plus pratique. Recevoir un coup de bidule sur la tête, c'est un peu idiot, alors que recevoir un coup de matraque, on est sûr que ça fait mal. Voilà donc un objet qui a failli être ridicule et qui aujourd'hui ne manque pas d'autorité, on a la mythologie qu'on mérite. Alors, ça n'a presque rien à voir, mais à force de tourner autour du bidule et du machin, ça m'a excité le bitonio, et je tenais à signaler la parution dans la Pléiade des textes de Georges Perec, auteur magnifique de monovocalisme, de lipogramme, de palindrome, entre autres choses. D'ailleurs, il a aussi écrit le roman Les Choses, merveilleux roman sur la société des objets, entre autres choses. Alors, si la Pléiade est trop chère, le livre est aussi paru en poche, à moins de 10 euros. Vous conviendrez, Ali, qu'on est loin du coup de matraque.
Et je recommande vraiment cette Pléiade, si vous avez la chance de pouvoir vous l'offrir, c'est absolument merveilleux. Je vous envoie toutes mes caresses amicales, Éric Libio, merci beaucoup, et je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Merci aussi, Guillemette, d'être intervenu depuis Cannes. Lundi, on s'intéresse aux bienfaits du yoga. Nous attendons toutes vos questions sur une pratique qui connaît un immense succès. Grand bien vous fasse à radiofrance.com. À la technique ce matin, Antoine Gomez et Vincent Godard. La programmation musicale était signée Muriel Pérez. Merci à la documentation de Radio France. À suivre Nagui et sa bande originale.